Bonjour à tous et bienvenue sur Droit Devant, l'émission juridique pour mieux comprendre le droit et connaître vos droits. Après la réforme pénale, il y a 2 semaines, nous nous intéressons aujourd'hui à une question qui concerne directement les étudiants, à savoir celle des stages et de leur encadrement réglementaire. Chaque année, plusieurs centaines de milliers d'étudiants ou de personnes en formation, on évoque des chiffres allant jusqu'à 1,5 million, effectuent un stage dans un organisme d'accueil privé ou public. Le stage constitue aujourd'hui une sorte de sous-marché du travail, impliquant des problématiques qui lui sont comparables. Discrimination à l'embauche, litiges financiers liés aux indemnités de stage ou au remboursement de frais, précarité institutionnalisée. Le contexte économique poussant les entreprises à une course permanente à la réduction des coûts, certains secteurs ont aujourd'hui fait du recours massif aux stagiaires une véritable politique de gestion du personnel. À tel point que le gouvernement envisage de légiférer à nouveau, à la suite de plusieurs lois et décrets intervenus depuis la mobilisation du collectif Génération Précaire en 2005.
Donc dans une revue de presse, Geoffrey nous parlera d'abord du projet de loi visant à intégrer le stage dans le calcul des retraites. Quelle démarche entreprendre pour trouver un stage? C'est une question à laquelle répondra un responsable de l'université Rennes 1. Et on verra ensuite dans un cas pratique ce qu'on peut faire et ce qui est illégal. Enfin, à côté des stages conventionnés, on verra qu'il existe d'autres types de stages avec le témoignage d'une jeune étudiante qui effectue un service civique.
Je souhaite une réforme profonde parce qu'il y a trop d'entreprises qui abusent des stages et qui les utilisent comme première expérience professionnelle. Et là, c'est choquant qu'ils ne comptent pas pour la retraite. On doit cette citation datant du début du mois dernier à Michel Sapin, notre actuel ministre du Travail et de l'Emploi. Ce dernier annonce donc une réforme des stages pour éviter 2 choses. Premièrement, de trop courants abus de la part des entreprises. D'autre part, l'absence de prise en compte de ces stages pour la future retraite des étudiants. Cette annonce ne fut pas sans effet, car dans la foulée, le gouvernement proposait de limiter le nombre de stagiaires dans les effectifs des entreprises, en définissant un taux à ne pas dépasser. Il s'agit d'une revendication de longue date du collectif étudiant Génération Précaire dont nous a déjà parlé Thomas. En mars dernier, Geneviève Forazzo, la ministre de l'Enseignement supérieur, avait déjà proposé cette mesure et souhaitait plafonner le nombre de stagiaires à 10% des effectifs de l'entreprise. L'objectif est d'empêcher les abus manifestes. L'été en particulier, certaines PME tournent avec plus de stagiaires que de salariés. Des abus sont fréquemment constatés dans des secteurs aussi prisés des jeunes, comme la communication et l'audiovisuel. Des grands groupes sont aussi pointés du doigt. Génération Précaire dénonce de longue date une hausse des stages et une baisse des CDD dans les banques pour les jobs d'été. Les modalités concernant ces quotas de stagiaires restent encore à définir, notamment en ce qui concerne l'instauration d'un taux différencié pour les PME et les TPE. Une mesure longtemps attendue qui ne fait pourtant pas l'unanimité au sein des entreprises. Ainsi, Jean-Christophe Sibéras, DRH de Solvay et président de l'association des DRH, déclare à ce propos. Je ne prédis pas un grand avenir à ce projet d'instaurer un taux maximal de stagiaires dans une entreprise. Ce qui est trop pour l'une ne l'est pas pour l'autre, selon sa taille, son secteur d'activité ou la période choisie. En tant que DRH, il me revient de dire stop lorsque je considère qu'il y a trop de stagiaires dans l'entreprise et qu'ils ne pourront pas être bien encadrés. Mais je me garderai bien d'établir un taux qu'il ne faudrait pas dépasser. S'agissant de la prise en compte des périodes de stage pour le calcul des retraites, ce sujet est en réalité régulièrement et depuis très longtemps évoqué par les politiques. Il est également réclamé depuis de nombreuses années par les organisations syndicales. Pourtant, jusqu'à présent, aucun ministre ne s'était réellement aventuré sérieusement sur ce sujet. Et c'est désormais chose faite. En effet, un amendement a récemment été déposé lors de l'examen du projet de loi sur les retraites. Les stages faisant l'objet d'une convention pourront désormais être intégrés dans le calcul, mais selon certaines conditions très strictes. Seulement 2 trimestres maximum pourront être utilisés, qu'il faudra aussi racheter. Chaque trimestre coûtera 300 euros, que l'étudiant réglera moyennant une cotisation de 12,5 euros par mois pendant 2 ans ou 25 euros par mois pendant 1 an. Seuls les stages ayant reçu une gratification pourront y prétendre. En clair, chaque trimestre de stage permettra d'obtenir un trimestre de cotisation à la retraite. Cette possibilité sera toutefois plafonnée à 6 mois de stage au total, soit 2 trimestres maximum. À la question « Pourquoi obliger les stagiaires à payer ?», la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, répond « Parce qu'il ne peut y avoir de validation sans cotisation ». En effet, des trimestres gratuits auraient été injustes, sachant que par exemple un jeune en apprentissage ou un travailleur classique est obligatoirement amené à cotiser sur la base de sa rémunération. A procura da batida perfeita. A
Babilônia e lá procura paz. Perderam o manual e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia, entrou no conto do canalha que fazia acontecer. Agora é artista, não se mistura com a plebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. Iate em Botafogo, apartamento Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz e lá tá o que eu sempre quis, né? Um saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap. O MC que é partideiro, o bumbo que vira esquete. É meu som, que mostra muito bem o que eu sou. Onde cresci, onde ando, onde fica, onde eu vou. A procura da batida perfeita. Batida perfeita. A procura pura da batida, batida perfeita. A procura da batida perfeita. Bicho tá pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, velocidade é essa. Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente. Não se bucha de ninguém, fica do lado do bem. Atitude, amor e respeito também. Eu vou no samba, é gente fã. A diferença é clara, a gente fuma e eles fama. Proteja a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado, quem tá junto. E eu tô junto, e junto carrego o meu orgulho. Suburbano convicto, sem meu lugar no mundo. Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é. Tipo eu e minha preta, só no rolê.
¿Cuál es el ritmo perfecto? ¿Dónde está? No sé.
¿Ça existe un beat parfait? C'est vrai? Ça existe? D'accord.
Could this be the perfect beat?
El ritmo perfecto.
A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita.
Vous venez d'écouter A Procura la Batida Perfecta de Marcelo D2 sur Radio Campus Rennes. Alors, comment s'y prendre pour trouver un stage? Entre la recherche d'offres, l'entretien et la convention, les démarches ne sont pas simples. On est allé demander conseil à Aziz Mouline, le vice-président de l'insertion professionnelle à Rennes 1. On écoute tout de suite son entretien.
En moyenne, nous avons à peu près 8200 stages qui sont effectués sur l'année universitaire 2012-2013. Parmi ces 8200 stages, il y a 92,5% qui sont effectués en France, essentiellement en Bretagne. Nous sommes dans la région Bretagne, donc c'est un peu normal. L'Île-de-France intervient à hauteur de 11%, puis les Pays de Loire à hauteur de 7%. Nous accordons une grande importance au volet international des stages, c'est-à-dire que nous avons près de 7,5% des stages qui sont effectués à l'étranger. Les pays varient d'une année à l'autre, mais à l'heure où je vous parle, c'est le Canada qui arrive en tête avec 83 stages, le Royaume-Uni 63 et la Chine 60. Évidemment, cette hiérarchie, elle change d'une année à l'autre. Nous avons une politique dédiée à l'insertion professionnelle en matière de stages, c'est-à-dire que nous partons du principe que l'étudiant, bien sûr, doit trouver un stage par lui-même, mais nous mettons à sa disposition tous les outils nécessaires pour le préparer à la recherche des stages. C'est-à-dire que nous avons des modules obligatoires d'insertion professionnelle, comment élaborer son CV, comment rédiger dans de bonnes conditions la lettre de motivation, et surtout comment préparer l'entretien de recrutement. À mon avis, cet aspect est vraiment important parce qu'il conditionne la recherche de stage de l'étudiant. Quand bien même il a trouvé un stage, il peut rater le fait de l'obtenir parce qu'il n'est pas préparé en amont à ceci. Alors, comment est-ce que nous procédons pour aider nos étudiants à trouver un stage? Alors, nous avons tout un dispositif que nous mettons à leur disposition à travers la plateforme d'insertion professionnelle, la plateforme qu'on appelle Triptyque avec trois entrées, étudiants, diplômés et entreprises. L'étudiant la consulte assez régulièrement parce qu'il y a des sites qui sont dédiés pour les stages, des sites généralistes, mais également des sites qui sont spécialisés par formation. Nous avons aussi des partenariats avec des entreprises qui viennent, une fois qu'ils ont les outils de connexion, qui ont la possibilité de déposer des offres de stage et d'emploi, soit pour l'ensemble des étudiants, ou alors ciblées par formation. On s'est dit également, l'entreprise, pour qu'elle reste fidèle à l'université, il faut lui offrir d'autres services, en dehors de cette possibilité de déposer des offres de stage et d'emploi. Nous avons, avec les mêmes identifiants, ils peuvent accéder à la CVTech de Rennes. C'est une CVTech qui est labellisée avec le logo de Rennes. Donc les entreprises sont sûres et certaines que les diplômes obtenus sont les vrais. Ils n'ont pas vérifié le CV de ces étudiants. Donc ces entreprises déposent des offres de stage et d'emploi qui sont consultées régulièrement par les étudiants. L'autre volet pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on aide l'étudiant à trouver des stages, nous organisons des forums au niveau des trois campus. Il y a trois campus à Rennes, le campus santé avec le forum Cap Industrie, le forum campus centre sciences économiques, l'IGR, la fac de droit qui organise régulièrement des campus. Le SOA qui est le service d'orientation insertion entreprise se charge de l'organisation du forum des masters scientifiques au campus de Beaulieu où nous sommes ici, qui en est à sa 4e édition, qui aura lieu le 14 novembre prochain. Et nous aidons les étudiants parce qu'on a innové par rapport à ce forum. Nous l'avons orienté exclusivement vers l'entretien de recrutement pour montrer à l'étudiant quelles sont les erreurs à éviter quand il passe des entretiens. Et nous avons 66 stands d'entreprise avec généralement des dépôts, des offres de stage et d'emploi de manière systématique. L'autre volet est toujours au niveau transversal de la politique d'établissement. Nous avons des partenariats avec des branches professionnelles, qu'il s'agisse de la Fédération bancaire française, qu'il s'agisse de l'UMM 3556, qu'il s'agisse des conseillers du commerce extérieur ou de Région Job, qui nous donnent régulièrement des offres de stage et d'emploi qui sont saisies par le service dédié. Dans les statistiques que j'ai montrées tout à l'heure, nous avons à peu près 300 stages offerts par des banques, d'où l'intérêt d'avoir ces fameuses conventions avec les branches professionnelles. Alors, si on veut résumer, en fait, tout se passe par les réseaux. Pour les stages. Il faut être connecté au monde socio-économique, il faut être connecté aux branches professionnelles. Et il ne faut pas oublier que nous avons des diplômés que nous formons qui sortent de notre université. Et l'éternelle question que nous nous posons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'université qui les a formés? Donc, ils montent des entreprises, ils sont à la tête des ressources humaines, ils sont à la tête de tel ou tel service. Et nous, ce que nous cherchons, c'est qu'ils aient ce réflexe de dire, ah ben oui, évidemment, je sors de Rennes 1, je peux chercher les compétences à Rennes 1, et donc je dois contacter mon université d'origine. Le contact se fait par un outil simple qu'on appelle l'annuaire des diplômés, qui est en ligne depuis 2010. Il est bien renseigné et ça nous permet de garder le contact avec ces étudiants, de leur dire que nous avons des services. C'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Nous mettons à leur disposition des offres d'emploi avec une expérience de 4 à 5 ans. Nous mettons à leur disposition une CVTech. Donc, ils ont envie de revenir régulièrement nous voir pour nous aider à offrir ces stages, voire même des emplois à nos étudiants. Quand on parle de stages, il y a surtout le côté législatif. Vous le savez, les stages sont gratifiés. Cette gratification est de l'ordre de 430 à 460 euros par mois, imposée par la loi, que ce soit la loi LRU ou la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, que le stage a une durée de 2 mois consécutifs ou pas. Alors, je ne vous cache pas que ça pose certains problèmes pour les entreprises, notamment les petites ou moyennes entreprises ou les très petites entreprises qui veulent nous prendre des stagiaires, mais qui essaient de trouver quelques détours pour éviter la gratification. Je tiens juste à dire que nous concernons Arena, la loi est la même pour tout le monde. On ne signe une convention de stage dont la durée est supérieure à 2 mois qu'à partir du moment où on s'est assuré de la gratification de ce stage. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Des propositions nous ont été faites pour faire 2 conventions d'1 mois pour éviter la gratification, mais on ne le fait pas. Parce que je répète, la loi est obligatoire pour tout le monde. Je voudrais également, peut-être pour finir, dire qu'au niveau de Rennes 1, tous les étudiants qui doivent trouver un stage, parce que le stage valide la formation, ils finissent tous par trouver un stage. Nous avons une souplesse, nous organisons 2 sessions pour les formations. La première session qui se termine en juin, s'ils n'ont pas trouvé un stage, on peut décaler la durée du stage vers la 2e session, mais en fin septembre, fin octobre, tous les étudiants de Rennes 1 ont trouvé un stage. Nous avons également un indicateur qui nous permet de dire est-ce que le stage s'est bien passé ou pas, c'est l'avenant à la convention. Et on a remarqué qu'il y a très peu d'avenants et que la plupart du temps, cet avenant se justifie parce qu'on a changé de tuteur pédagogique, parce qu'on a changé la durée du stage de l'étudiant. À Rennes, tout étudiant qui doit faire un stage le trouve. Le stage valide la formation. Le stage est un élément déterminant de l'insertion professionnelle de l'étudiant.
Donc on passe maintenant au cas pratique. Alors cette semaine, nous intéressons aux problèmes que l'on peut très vite rencontrer dans la recherche ou le déroulement d'un stage. Malheureusement, les écueils sont nombreux. Un stage doit-il être indemnisé? Et si oui, combien? Peut-on confier à un stagiaire les mêmes tâches qu'à un salarié? Voici quelques réponses aux questions les plus courantes.
Alors cette semaine, notre exemple, fictif mais inspiré de situations qui peuvent réellement se produire, concerne Nadia, qui effectue une formation professionnelle à l'édition et au métier du livre. Jusqu'ici, son année s'est bien déroulée. Nadia a obtenu de bons résultats au premier semestre. La fin d'année se rapproche. Il est donc temps de rechercher un stage. Pour Nadia, ce sera une maison d'édition pour un stage d'une durée minimale de 10 semaines. Elle envoie CV, lettre de motivation, passe des appels, et attend maintenant des réponses. Une première entreprise la contacte. Une société d'édition qui s'appelle Petit mais Costaud, dont il est de notoriété publique qu'elle est très proche du célèbre mouvement de libération des nains de jardin. Le directeur, M. Boutentrain, propose un entretien à Nadia au siège de la maison d'édition. Durant l'entretien, après lui avoir demandé son âge et sa situation familiale, M. Boutentrain demande à Nadia si elle est d'accord ou non avec la situation politique des nains de jardin dans le pays. A-t-il le droit de lui poser de telles questions ?
Eh bien non. De même que pendant un entretien d'embauche pour un emploi salarié, la loi interdit d'interroger le candidat sur son âge, oui, sur sa situation familiale, sur ses préférences religieuses ou politiques, s'il est fumeur ou non fumeur, de même que sur tout élément susceptible d'entraîner une discrimination. Seules sont autorisées les questions permettant d'évaluer les compétences et les aptitudes professionnelles du candidat. Nadia peut donc refuser de répondre à ces questions.
Mais la suite de l'entretien se passe bien. Nadia reçoit bientôt un mail de l'entreprise lui indiquant qu'elle est acceptée. Il lui est demandé de confirmer par retour de mail, puis de se présenter à la maison d'édition le 1er avril pour débuter son stage. Mais Nadia se rappelle d'une réunion à l'université, durant laquelle on lui avait parlé de la réalisation obligatoire d'une convention de stage. Elle recontacte la maison d'édition, qui lui dit que non, ce n'est pas nécessaire, qu'elle peut commencer directement son stage à la date prévue. Cette situation est-elle normale ?
Alors non, pas du tout. L'absence de convention de stage est un manquement très sérieux, susceptible de pénaliser l'étudiant qui dès lors ne sait pas à quoi il s'engage. En fait, ce document doit être fourni par l'organisme de formation et obligatoirement conclu avant le début du stage. Il doit être signé par les trois parties, donc l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'université, et il précise notamment s'il y a lieu le montant de l'indemnité de stage et des autres aides éventuellement accordées par l'entreprise. Il doit aussi contenir une description précise des missions confiées aux stagiaires, les dates de début et de fin du stage, ainsi que la durée de travail hebdomadaire maximale du stagiaire.
Après que Nadia eut rappelé ces quelques détails, la maison d'édition accepte de conclure une convention. Comme le stage va durer 10 semaines, la convention rédigée par l'université prévoit bien une gratification. C'est le terme légal employé pour désigner l'indemnité de stage. Celle-ci est obligatoire pour tout stage dans le secteur privé ou dans la fonction publique d'État, dont la durée est supérieure à 2 mois. Son montant minimum est fixé par la loi et peut être vérifié très facilement sur le site internet du ministère du Travail. Actuellement, il s'élève à 436 euros par mois. Afin de réaliser des économies, le directeur propose alors à Nadia de couper son stage en 2 périodes distinctes. D'abord 5 semaines, puis une pause d'une semaine, ensuite un second stage de 5 semaines.
Oui, alors pourquoi pas ? Mais cela ne change rien. La gratification est obligatoire pour tout stage d'une durée supérieure à 2 mois, passé dans la même entreprise, qu'il soit consécutif ou non consécutif sur une période totale de 12 mois. Le stage de Nadia devra donc, dans tous les cas, être indemnisé.
Alors comme les choses ne sont pas vraiment parties du bon pied, M. Boutentrain décide d'essayer de rattraper le coup. Il propose finalement à Nadia une petite rallonge à cette gratification, ainsi qu'un remboursement partiel de ses frais de transport, puisque Nadia va venir tous les jours en train depuis la ville voisine. Cela est-il autorisé ?
Oui, oui, tout à fait. L'organisme d'accueil peut très bien décider d'accorder une aide supplémentaire aux stagiaires. Il devra par contre régler des cotisations sociales sur la part de gratification qui excède le montant minimal légal.
Donc finalement, tout va bien et Nadia est heureuse de débuter son stage dans de bonnes conditions. Mais au bout de 2 semaines, un salarié de l'entreprise, qui est assistant d'édition, tombe malade et doit s'absenter pour une longue période. Pour parer à ce coup dur, le directeur affecte alors Nadia, qui a rapidement démontré le sérieux de son travail, aux tâches habituellement dévolues à cet assistant. Nadia se retrouve donc, du jour au lendemain, responsable du suivi de plusieurs ouvrages en cours de préparation. Cette situation est très stressante pour elle, elle en perd le sommeil et se demande si c'est normal.
Non, c'est pas normal. Bien que le choix de M. Boutentrain soit compréhensible, puisque Nadia est déjà présente dans l'entreprise et a montré des qualités, un stagiaire ne peut légalement être affecté à des tâches qui reviennent habituellement à un salarié. D'une manière générale, un stage ne peut en aucun cas être utilisé pour un remplacement de salarié, ni dans le but de compenser un accroissement temporaire d'activité, donc ça c'est le rôle du CDD. Aucune notion de responsabilité ni aucune exigence de rentabilité ne peut être demandée à un stagiaire. Le stage doit être exclusivement envisagé comme un outil pédagogique de mise en application des connaissances du stagiaire, bien que les tâches réalisées puissent être entendues utiles à l'entreprise.
Informé de cette règle par sa DRH, M. Boutentrain change son fusil d'épaule et propose finalement à Nadia de finir son stage par un CDD de remplacement. Comme cette proposition est également acceptée par l'université, Nadia est finalement embauchée comme salariée par Petit mais Costaud. Elle commencera sa période de travail par une formation à ses nouvelles missions et sera rémunérée comme une assistante d'édition débutante. Tout est bien qui finit bien pour Nadia.
Alors pour de plus amples informations sur ces questions, vous pouvez consulter donc, le site du ministère du Travail, très complet, sur travailemploi.gouv.fr. Toujours au niveau institutionnel, le site vaudroit.servicepublic.fr ou bien l'association de défense des droits des stagiaires, Génération Précaire, sur génération-précaire.org. C'était Teardrop de Massive Attack sur Radio Campus Rennes. Donc on a vu que la recherche d'un stage peut s'avérer être un parcours du combattant avec des situations pas toujours légales. Malgré ça, il semble que tous les étudiants finissent en général par trouver. Il y en a aussi qui choisissent d'autres moyens pour acquérir une expérience professionnelle. Vous avez par exemple la possibilité d'effectuer un service volontaire en France ou à l'étranger. Donc c'est le cas de Léna qui a décidé de faire un service civique dans une mission locale à Rennes. On écoute son témoignage.
Et concrètement, du coup, dans le service civique, comment ça marche ?
Alors, donc l'asso par laquelle je passe, donc c'est l'AFEV. Donc, en fait, ça veut dire Association de la Fondation étudiante pour la ville. Mais plus concrètement, en fait, c'est vraiment de la lutte contre les inégalités. Donc, ça, en fait, c'est on est présent dans tous les quartiers populaires de Rennes. Donc, voilà, avec du coup la mise en place de projets, un énorme travail avec les habitants. Et du coup, aussi, donc la première, en fait, un peu le premier plan de cette asso, c'est l'accompagnement individualisé, où en fait, on fait se rencontrer deux jeunesses, donc des étudiants, du coup, qui sont bénévoles donc, à l'association, et des enfants, donc issus de ces quartiers, qui sont en fait des enfants scolarisés. Et en fait, c'est grâce au partenariat qu'on a avec les écoles situées dans les quartiers qui, du coup, en fait, repèrent les enfants en fonction de leurs difficultés. Et donc, du coup, après, on reçoit en fait des fiches avec des enfants pour qui l'accompagnement pourrait être vraiment bénéfique, en fait.
Et avec les volontaires au sein de l'association, comment ça se passe, l'ambiance ?
Alors, du coup, là, ça, c'est pareil. Ça fait partie, en fait, de tout, toute la richesse, en fait, du service civique. C'est que c'est la rencontre avec plein de personnes qui viennent de milieux totalement différents. Je sais que c'est pour la plupart des gens que j'aurais jamais rencontrés forcément, naturellement, comme ça. Et du coup, c'est ça qui fait la force, en fait. Du coup, c'est que ça fait maintenant quasiment 2 mois qu'on travaille ensemble. On se voit énormément tous les jours. Ça demande quand même beaucoup d'organisation parce que voilà, c'est quand même 15, c'est beaucoup au niveau dans une équipe, ne serait-ce que pour s'organiser, mettre des choses en place. Puis il y a tout ce qui concerne voilà, la gestion des conflits, tout ça. Bon, c'est jamais tout rose, forcément, comme voilà. Mais par contre, moi, de mon point de vue, je sais que j'ai une relation en fait qui se met en place avec chacun d'eux, qui est vraiment super super sympa et je m'entends vraiment bien avec tous, ce qui fait que du coup ça ne fait qu'à chaque fois renouveler le plaisir que j'ai à arriver à aller au local tous les jours pour continuer. Dans nos missions, dans nos projets, voilà, c'est vraiment chaque personne est différente et ils ont tous quelque chose de super intéressant à apporter. C'est ça qui fait vraiment la richesse de l'asso et de l'équipe au final. Donc voilà, et après nous, notre travail, c'est de mettre en relation un étudiant avec un enfant. Donc après, il y a plusieurs critères en fonction des disponibilités, du quartier aussi, où habite l'étudiant, tout ça. Et donc après, l'accompagnement se met en place tout au long de l'année, 2 heures par semaine en fait, voilà. Depuis que j'ai commencé à parler du fait que je faisais service civique, les gens mettent du temps à vraiment comprendre ce que je fais, quoi. ou même dans les gens qu'on croise en règle générale, les gens, ils ont du mal à comprendre qu'on finit par dire, en gros, c'est un stage rémunéré, quoi. Par rapport à la notion de service civique, il faut que ça continue d'être de plus en plus et de mieux en mieux reconnu au niveau national, parce que finalement, c'est vraiment comme ça que les choses avancent et bougent, quoi.
Voilà, donc on arrive à la fin de cette nouvelle émission de Droit Devant. Merci beaucoup à Claude, une fois encore, pour la technique. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, et à dans 2 semaines. Salut Marion, salut Thomas.